Cette semaine, on parle animation en recevant à un mois de la sortie d'Ernest et Célestine, Le Voyage en Charabie, ses deux réalisateurs, avant de revenir avec l'équipe sur les nouveautés de la semaine à découvrir au cinéma. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Autour de la table aujourd'hui, l'équipe au complet. Bonjour à vous trois, bonjour Gaëlle.
Bonjour.
Bonjour Robin.
Bonjour.
Et bonjour Lisa.
Salut.
Oh, cette précision. Oh, tu as été différente que les autres, tu es partie sur un salut plutôt qu'un bonjour.
Oui, bon, on se connaît bien
et
maintenant.
C'est ça qui te différencie.
Bah, oui.
Et c'est
je suis
ça
moins
fait...
formelle que les garçons.
Et c'est ça qui fait ta force. Ils sont également avec nous autour de la table aujourd'hui, ce sont les deux réalisateurs d'Ernest et Célestine, Le Voyage en Charabie.
La Charabie, Célestine. Tu vas voir, c'est tout le temps la fête. Il y a de la musique partout. Et ça, c'est la devise de la Charabie. C'est comme ça et pas autrement.
Police musicale.
Oh. Utilisation de notes interdites. Vous êtes bon pour la prison, mon vieux.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Vous faites encore la chasse aux notes?
Mi fa sol, ceci, c'est le...
Julien Cheng et Jean-Christophe Roger, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et
bonjour.
Bienvenue. Un film d'animation, ça prend du temps à faire. Depuis combien de temps vous étiez sur ce deuxième opus d'Ernest?
Oula, ça fait 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille dans notre cave à l'élaboration du film. Avec une équipe d'une centaine de personnes quand même.
C'est une bonne cave.
C'est une bonne grosse cave. Et puis avec plus de 30 000 dessins pour fabriquer un film d'animation comme ça. Et un rythme de fabrication d'une seconde par jour. Donc c'est un peu un exercice de patience, l'animation.
Bah, c'est-à-dire on a commencé à deux pendant 6 mois, puis après il y a une petit à petit une personne qui vient en plus, des storyboarders, et puis au bout d'un an on démarre la fabrication et là il y a beaucoup de monde qui vient nous aider pour l'animation.
Comme on le disait juste avant d'enregistrer, vous avez commencé à le présenter à du public. Ce film, ça fait 2 ans et demi que vous travaillez dessus. Quel sentiment de pouvoir enfin livrer, déjà de voir le résultat final, parce que j'imagine que du coup vous avez vu les séquences et des centaines de fois, si ce n'est plus, et de voir enfin le résultat final et de voir une salle pleine interagir et découvrir le film sur grand écran.
Ah bah c'est magique, hein. C'est sûr que nous, en 2 ans et demi, on a l'impression de connaître par cœur le film, mais quand on a déjà, on a mixé, on a étalonné le film fin de l'été, donc en fait on a découvert le film vraiment fini, il n'y a pas si longtemps que ça, donc déjà ça a été une première redécouverte du film pour nous. Et puis ça fait, on a fait déjà 3-4 avant-premières en province, donc on a tous nos week-ends de prix là-dessus, là, en ce moment. Et de découvrir le film avec le public dans la salle qui découvre pour la première fois, c'est génial, quoi. On a beaucoup d'enfants, de parents qui sont très très engagés, en questionnement, qui posent beaucoup de questions à la fin.
On est étonné en fait de voir à quel point le public, à la fois les adultes, parce qu'on a vu des personnes âgées sortir super contents, et puis en même temps, à partir de 3 ans, 4 ans, 5 ans, et on voit des enfants au début du film qui dansent sur la musique, des enfants qui pleurent au moment triste, il y avait vraiment des pleurs dans la salle, et puis des cris « Oh non, machin !» à des moments clés, et puis à la fin, vraiment, pendant le générique de fin, tout le monde tape dans les mains... C'est vrai qu'on est étonné de...
Ouais, on a des enfants qui montent sur scène et qui se mettent à danser pendant le générique de fin, donc c'est super sympa comme ambiance.
Mais c'est surtout que le premier film était sorti en 2012, donc c'est une nouvelle génération qui découvre le personnage. Alors certes, il y a eu la série télé derrière, il y a eu le moyen-métrage. Aujourd'hui, c'est le deuxième long-métrage d'animation. Vous aviez réalisé le moyen ensemble, c'est
oui.
ça ?
Oui, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le public connaît surtout la collection, la série.
D'accord.
En fait, les enfants ont vu la série. Ils étaient trop jeunes pour voir le premier film, donc ils connaissent surtout la série, parce qu'on a eu des questions d'enfants qui demandent, mais c'est bizarre, c'est pas exactement le même trait pour le personnage, c'est-à-dire qu'ils ont déjà repéré que c'était pas la même technique que dans la série, mais on remarque...
Pour des enfants, des futurs animateurs, quoi.
Voilà.
Mais non, mais futurs passionnés
d'animation. Des enfants qui repèrent les différences techniques, et on voit que leur référence, c'est la série, c'est la première saison qu'on a fait avec Julien, en fait.
C'est ça, ils ont grandi avec la série, donc ils connaissent bien les personnages, et nous, dans ce film-là, c'est vrai qu'on reprend les personnages dans le contexte après le contexte de la série. Donc on a installé des choses dans la série qu'on récupère et qu'on prolonge dans le film. Là où le premier film, qui est sorti il y a 10 ans, c'est un peu... c'est pour eux, ils ne l'ont pas vu forcément, quoi. Donc il fallait représenter un peu l'univers.
C'est-à-dire que s'ils le découvrent aujourd'hui, ça sera presque un prequel à l'histoire sur la rencontre entre Ernest et Célestine.
Ouais, exactement.
Les débuts.
C'est ça. Alors par contre, les parents, souvent, le connaissent, mais... Mais les enfants ont suivi à la télévision. Même dans des salles, il y avait par exemple des enfants qui disaient nous, on était en Afrique, on suivait la série en Afrique, donc on connaît très bien Ernest et Célestine. Donc c'était étonnant, quoi.
Robin ? Et justement, puisqu'on parle de la collection, la série et maintenant de ce nouveau long-métrage, ça doit être une autre échelle de production, d'autres budgets, peut-être des façons de travailler différemment aussi, pour passer des épisodes assez courts à maintenant un long-métrage de plus d'une heure, 1h20. Comment est-ce que vous avez approché ce travail-là ? Dans quelle disposition ?
Ça, c'est quasiment la même question que les enfants.
Mais je veux également
un peu plus détaillé.
Bah, c'est vrai que sur une série, sur un épisode, les épisodes faisaient 13 minutes à l'époque, donc on racontait des histoires qui avaient une résolution assez rapide finalement. Et là, la complexité du film sur 80 minutes, c'est-à-dire 1h30 à peu près, c'est de raconter une histoire suffisamment simple pour que les enfants puissent retrouver l'atmosphère qu'ils ont connue dans la série, et en même temps suffisamment complexe pour les tenir éveillés et engagés dans l'histoire pendant 7h30. Donc, et puis on a beaucoup de personnages, en Charabie notamment. Donc, puisque c'est une histoire de famille, c'est un petit film un tout petit peu choral, donc chacun a ses problématiques. Et donc il fallait, le récit est dense, il fallait quand même, c'était très complexe à mettre en œuvre pour que ça fonctionne en termes de structure de scénario, de rythme global de film. Et donc il faut savoir que nous, avant d'arriver sur le film et de commencer l'étape de réalisation, il y a quand même 2 ans ou 3 ans qui se sont passés d'écriture pure, c'est-à-dire de version de scénario après version de scénario qui ont été écrites.
Parce qu'on imagine que sur un projet comme ça, comme tout film, le scénario est au cœur du projet, mais sur un film d'animation, au bout d'un an d'animation, on peut-être pas se dire « Ah, finalement, ça, on va partir dans une autre direction avec l'histoire. »
Oui, c'est-à-dire que c'est une façon de travailler assez différente, parce qu'en série télé, en fait, c'est assez calibré au niveau à la fois sur l'écriture et même sur la réalisation. Même au niveau de la réalisation, on a des limites techniques liées au budget, sur le nombre de décors, de personnages, tout ça. Mais quand on rentre dans une narration de film, en fait, la partie écriture, elle est autant au storyboard, au dessin, au découpage. En fait, on a travaillé un peu à la Miyazaki, c'est-à-dire qu'en fait, on a écrit le film beaucoup en le découpant, en repensant les choses. Et puis toujours l'avantage du long métrage, c'est qu'en fait, on peut aller plus loin dans la profondeur des personnages. On peut développer vraiment les personnages. Et là, on en avait l'occasion, puisqu'on a les problèmes de famille d'Ernest, le problème avec la relation avec son père qui est très compliquée, sa mère qui est aussi un peu spéciale, sa sœur aussi. En fait, ils ont tous des vies... voilà, on peut approfondir en fait la psychologie des personnages et pourquoi est-ce que... il a fui la Charabie, et puis on le découvre, et on peut développer ça. Alors que c'est vrai que dans un cadre de série télé à 13 minutes, on ne peut pas aller si loin sur la psychologie des personnages.
Moi, j'avais une question. Vous parliez justement du travail d'écriture. Je voulais savoir déjà comment ça se passe, la co-réalisation. Quand on est deux, comment ça se passe ? Comment vous avez aussi géré votre travail à deux, en fait ?
Ouais, c'est une bonne question, parce que en fait, en animation, je pense que c'est assez fréquent d'avoir plusieurs réalisateurs, parce que l'animation, c'est quand même un gros paquebot, quoi, avec beaucoup d'équipes très différentes sur un temps long, pas comme sur un tournage live qui va se concentrer sur un mois ou 2 mois maximum. Là, on est une centaine sur 2 ans et demi de fabrication. Donc, pour diriger ça, comment on a fonctionné ensemble, c'est qu'on s'est réparti un peu des rôles en fonction des étapes du film, là où par exemple Jean-Christophe va s'occuper, quand on rentre en fabrication, du suivi des décors et de la couleur de l'animation. Moi, je serai sur des phases d'animation, voilà. Donc on se répartit un peu les rôles. Après, on était ensemble pour les aspects les plus importants du storytelling, c'est-à-dire du storyboard, de l'enregistrement des comédiens, de la musique et de la post-prod.
C'est-à-dire que souvent, en fait, il y a... Je pense que ce qui est un peu particulier, c'est que souvent, les rôles sont un peu répartis. Alors que nous, on a décidé un peu dès le début, où on a commencé à travailler ensemble, on ne voulait pas être frustré qu'il y en a un qui choisisse à la place de l'autre. Donc on a décidé on s'est dit que toutes les décisions, toute la partie créative, c'était vraiment ensemble qu'on le faisait. Donc ça nous a amené à tout le temps discuter... dessiner, écrire, avoir l'avis de l'autre, remettre en cause, refaire. et donc de toujours en fait échanger sur qu'est-ce qui semble mieux sur le film.
Justement, au cours de ces discussions, j'imagine que vous avez peut-être mis en commun des inspirations, des références que vous avez, vous, chacun, du cinéma d'animation. Quelles ont été, justement, vos sources d'inspiration pour Ernest et Célestine dans ce long-métrage ?
Ben, d'abord, je pense que la série télé qu'on a co-réalisée ensemble est une grosse source d'inspiration, parce que sur le film, on reprend les personnages là où on les a laissés. Donc, c'était notre première source d'inspiration. Après, il y a les albums de Gabriel Vincent, l'auteur original des albums, que beaucoup de gens ont chez eux, qui est aussi une source d'inspiration pour les attitudes des personnages, la tendresse, le style de dessin. Après, pour les influences, il y a aussi... moi, j'ai participé en animation au premier film, il y a 10 ans. J'ai commencé dans l'animation grâce à ce film. Donc, j'avais quand même aussi des réflexes de dessin, d'animation, de rythme, qui était déjà mise en place dans le premier film. Et puis après, je crois que c'est nos goûts cinématographiques au sens large. Il y a beaucoup de Kusturica dans le film.
Oui, c'est ça. Moi aussi, c'est par exemple le début, Kusturica, Super 8 Stories ou Underground. Donc cette espèce de... À la fois, la Charabie, c'est vraiment un pays quand même... un peu slave, avec la musique débridée, avec des personnages vraiment hauts en couleur qui vont à la fois crier pour s'exprimer, mais qui à la fois pensent autre chose, un peu comme le père, tout ça. C'est un peu des personnages à la Costa Rica. Et puis, après, dans l'humour, moi, il y a beaucoup de choses comme les Monty Python, Flying Circus, il y a ce type d'humour. Même le début, il y a des choses qui sont inspirées d'Orfeo Negro aussi, sur toutes les trucs avec les tramways et puis toute cette folie. Donc il y a un mélange un peu de comique un peu absurde et un peu de burlesque aussi dans le film. Et puis l'amitié et la tendresse entre Ernest et Célestine, mais qui est un peu l'ADN du projet. Qui vient de Gabriel Vincent et puis de ce qu'on a fait sur la série aussi.
Je me demandais s'il n'y avait pas toujours sur les influences, parce qu'on parlait de la série télé qui est quand même effectivement un format court. Là, la grosse différence même avec le premier film, c'est le scope, enfin la dimension du film et notamment sa fonction de fable aussi. Je me demandais s'il n'y avait pas du Grimaud dans la Charabie, dans aussi le discours sur l'oppression et la liberté et la création comme pouvoir pour se libérer. Je me demandais si c'était pas quelque chose qui avait compté pour vous. Et puis,
complètement, mais je dirais que ça, si on parle du Roi et l'Oiseau, de ce genre de référence, pour nous en animation, c'est une référence ultime. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas un film d'animation qu'on aborde quand on parle d'une utopie ou d'une une sorte de petite critique du pouvoir, disons, où on n'a pas dans un coin de la tête les images du Roi et l'Oiseau. Donc, puis en plus, la topographie de la Charabie, tout en hauteur, comme ça, avec une prison qui est perchée en haut d'une montagne, et des moyens de locomotion assez loufoques, avec beaucoup de funiculaires, de tire-fesses pour s'y rendre. Toute une galerie aussi de... C'est surtout les policiers qui me font penser à du Grimaud, parce qu'on les a considérés comme une foule un peu... avec une monopersonnalité, disons, comme un groupe juste casque et une uniforme.
Presque un peu comme les Romains d'Astérix, quoi, qui
exactement,
se déplacent
toujours. Exactement, ouais, c'est ça. Et c'est quelque chose, effectivement, qui ressemble beaucoup à du Grimaud, ouais.
C'est-à-dire qu'il y a, ce qu'on retrouve, c'est le désir de parler de choses... De thèmes humains ou même politiques ou même des conflits dans la famille, c'est de choses qu'on pourrait dire adultes, mais d'en parler aux enfants et à tout le monde. C'est-à-dire qu'à travers un langage qui peut être avec un comique un peu absurde, avec de la poésie, et on aborde quand même des sujets qui sont l'autorité, les conflits dans la famille, mais tout ça avec un certain ton, avec... un certain langage, en fait. Et donc, c'est, dans ce sens, c'est vrai que c'est un peu dans ce prolongement.
Je me suis même demandé s'il n'y avait pas... Alors après, c'est comme on dit, l'esprit du temps, mais s'il n'y avait pas... Enfin, moi, quand je vois Ernest qui se réveille au début et il dit « ça fait 3 mois que tu dors », je me suis dit « ok, c'est le Covid, il part en Charabie, c'est la Russie ». Enfin, je me suis demandé s'il n'y avait pas quand même quelque chose de... Effectivement, de et on rejoint Grimaud d'une certaine manière, c'est-à-dire de capter aussi des choses sombres pour faire réfléchir... la famille, enfin les enfants et les parents, mais sur des choses très contemporaines.
Ouais, c'est une bonne remarque. C'est vrai que, alors, Nous, on a commencé à storyboarder le film, c'est-à-dire nos premières esquisses sur le film, on les a faites pendant le premier confinement. Donc on était vraiment coincés à la maison et on était en train de dessiner ces scènes d'Ernest qui se réveille et tout ça. Donc ça a beaucoup joué aussi sur notre... sur la façon dont on racontait l'histoire. Après, par rapport à la... Enfin, tout l'aspect... Parce qu'on a ce commentaire aussi de la part des parents. Le film sort maintenant et on a cet oiseau qui représente la liberté dans le film, qui représente la musique qu'il faut libérer, qui est de couleur jaune et bleue, donc en référence aux couleurs de l'Ukraine. Et on a aussi tout un langage, une écriture dans le film en cyrillique qui rappelle beaucoup la Russie. Donc on nous demande si le film, on voulait parler de ces actualités-là. Et en fait, c'est un hasard total, parce que nous, le film, il y a 2 ans et demi, il n'y avait pas encore de conflit entre l'Ukraine et la Russie.
Alors c'est un hasard total, mais quand même inconsciemment, par exemple, moi j'ai travaillé en Ukraine à 2 reprises. Au début de ma carrière, je restais dans un studio à Kiev. Et puis, il y a une quinzaine d'années, j'ai été réalisé pendant 1 mois un pilote aussi à Kiev. Et là, c'était l'époque où il y avait cette émancipation, en fait, de l'Ukraine par rapport à la Russie. Donc, du coup, il y avait vraiment... donc, c'est un environnement aussi... enfin, en tout cas, moi, qui était gravé un peu dans mon inconscient. Et puis, quand le film est sorti, quand il y a eu la compilation Ernest et Célestine en hiver, on a eu l'occasion de le présenter. Et moi, j'ai eu l'occasion de le présenter à Moscou et à Saint-Pétersbourg, où d'ailleurs, les enfants ont vraiment adoré. Et je me rappelle la question d'un enfant qui disait « Est-ce que vous pouvez faire un film qui parle aussi de chez nous, tout ça ?» Enfin, je ne sais pas, c'est un souvenir que j'ai. Alors... C'est vrai que dans le projet, le pays des ours, c'était les montagnes de l'Est quand même. Et puis la Charabie, c'était un peu le Caucase. Enfin, il y avait quand même ça, le Charabiov, c'est une langue. Donc on s'est quand même inspiré de ça. Mais c'est vrai qu'avec l'intention qu'on avait, il est arrivé un truc qu'on n'aurait pas pu calculer. C'est que les choix qu'on a fait, des mésanges, de mi-fa-sol en bleu et jaune, des caractères cyrilliques un peu à droite à gauche. En fait, la guerre et l'intervention en Ukraine est arrivée, en fait, c'était déjà en place, quoi, tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on a mis en place après, ça s'est effectivement rejoint.
Et ça nous a frappé pendant les premiers visionnages qu'ont suivi justement ce fait d'actualité, où on s'est demandé aussi avec les producteurs et tout ça, est-ce qu'il faut qu'on change les choses ? Comment en parler derrière et on a fait le choix, en fait, de garder les choses telles qu'on les avait initialement conçues, avec ces couleurs bleu et jaune, et avec ce langage, ces influences, et voilà.
Et on parle beaucoup de la Charabie. Moi, j'aimerais juste revenir, peut-être en 2 mots, parce que c'est une question qu'on a dû vous poser 200 000 fois et qu'on va vous poser encore tout autant jusqu'à la sortie du film, mais peut-être en 2 mots, l'histoire de ce nouvel opus. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu où sont les personnages au début du film et justement le voyage dans lequel ils s'inscrivent vers la Charabie ?
Au début, en fait, on les prend comme dans la série. C'est-à-dire qu'ils habitent ensemble dans un petit village qui peut être français ou belge, puisque c'est vraiment l'univers de Gabriel Vincent. Mais tout ce qui a été fait avec Gabriel Vincent jusqu'à présent, c'était d'après ses dessins, c'est-à-dire que c'est un univers géographique qu'on connaît. Et là, on avait un scénario qui nous emmenait dans un pays imaginaire. Donc en fait, il fallait imaginer ce pays imaginaire, il fallait surtout imaginer une sorte de transition pour que ce pays imaginaire, ce ne soit pas tout d'un coup, on arrive sur la Lune, on passe une porte et puis on est dans un monde complètement différent. Donc en fait, on a essayé de rendre réaliste ce voyage et de... pour que, comme si nous-mêmes, on voyageait, puis tout d'un coup, on allait dans un coin où, en fait, on n'a jamais mis les pieds, parce que c'est vraiment encaissé dans les montagnes et tout ça. Donc, en fait, on arrive dans ce pays qui est inspiré de plein de choses, d'inspiration qu'on a à nous, et puis de choses qu'on a trouvées. Mais, en fait, c'est, voilà, le voyage, on part de quelque chose de connu pour aller vers quelque chose qu'en fait, les spectateurs vont découvrir, qu'ils ne connaissent pas.
Ce qu'il faut préciser, c'est donc en Charabie, toute musique est interdite. Sauf ?
Sauf le do, la note do. Et la musique est interdite. En fait, Ernest, Célestine, par un jeu d'accident, en fait, casse le violon d'Ernest. Donc en fait, elle se retrouve dans un problème, c'est que c'était le violon préféré d'Ernest. C'est un violon très précieux et Ernest est dévasté quand on lui casse son violon. Et Célestine, voulant le réparer, se rend compte que la seule personne qui peut le réparer est un luthier qui se trouve en Charabie. Donc ça, c'est le moteur, c'est le point de départ, c'est qui va les pousser. Célestine d'abord, parce qu'elle part toute seule dans ce pays un peu inconnu pour réparer le violon. Et finalement, le symbole de ce violon cassé, c'est ce qu'on a voulu aussi dire derrière ça, c'est que c'est la musique qui est cassée, et qu'il faut réparer, qu'il faut libérer, mais c'est aussi toute cette conscience en charabi des enfants qui sont obligés d'obéir à cette règle de faire le métier des parents, qu'il faut aussi libérer, quoi. C'est-à-dire, à travers la musique, on parle de la libération un peu des consciences des gens en charabi.
Oui, mais j'avoue que c'est vrai qu'en y repensant, ce souvenir en Russie, c'est-à-dire c'est ce contraste en fait, parce qu'à l'époque il n'y avait pas la guerre, mais on sentait quand même qu'on ne peut pas parler avec les jeunes de n'importe quoi, donc on sent quand même le poids de la dictature, même avant que ce qui arrivait, mais en même temps on sent que les enfants ils ont soif, ils ont des rêves, ils ont soif d'être heureux, il y a quand même ce conflit où il y a quand même clairement un lien avec le monde d'aujourd'hui.
Ouais, puis même pour aller plus loin, c'est vrai qu'on parle de conflit, parce qu'Ernest arrive en charabie et il y a une vraie chape de plomb qui s'est installée avec l'interdiction de la musique, donc les gens vivent sous cette oppression-là. Et en même temps, la personne qui a décrété cette loi, c'est son propre père. Donc il y a une sorte de conflit fraternel, familial, qui déchire un peu ce pays.
Gaël?
Et comment faire aussi pour changer la loi? Parce que c'est l'une des questions que pose le film. Je voulais parler de la musique, parce qu'évidemment c'est au cœur du film. Et d'abord, j'ai une toute petite question qui est, vous avez travaillé avec des musiciens, des luthiers, parce qu'il y a un travail sur la représentation des instruments, et pas seulement le Stradivarius. Ça c'est super, super trouvaille.
Qu'est-ce qu'il est précis.
J'ai mon fils de 10 ans qui fait du corps d'harmonie. Je sais qu'Alexis aime bien quand je raconte ma vie, mais...
Je me régale, là. J'ai sorti le popcorn.
Quand il a vu la lutherie, a vu qu'il y avait un corps, et donc il était fou, et en plus le corps est magnifique. Mais ma question, c'est une vraie question, comment est-ce que vous avez travaillé avec... est-ce que vous avez travaillé avec des spécialistes pour arriver à cette précision de la représentation des instruments?
Oui, complètement. Il a déjà fallu, même nous, à la réception du scénario, consulter donc le musicien qui allait faire la musique du film, pour qu'il nous explique en gros ce qu'il avait en tête sur les formations qu'il allait mettre en place pour les différentes musiques du film. Parce qu'en fonction des instruments qu'il allait choisir pour créer sa musique, nous, il y a beaucoup de scènes où on a les musiciens qui jouent, qui performent la musique. Donc à l'animation, il faut qu'on dessine les instruments tels qu'ils ont été enregistrés par le musicien. Et donc, il nous a, des fois, c'est des instruments qu'on ne connaissait pas, il nous a fait vraiment une sorte de liste très précise des instruments, et nous, on a fait notre devoir, on est allé chercher un peu les instruments sous tous les angles possibles et imaginables pour les dessiner vraiment correctement et que ce soit fidèle au son qu'on entend.
Ouais. On a vraiment collaboré avec Vincent Courtois pour se dire, par exemple, le speakeasy, c'est l'endroit où la musique est libre. Donc, quels sont les instruments? C'est quoi le type de musique? Donc, on a regardé, par exemple, des groupes comme Leningrad ou des groupes avec des instruments à cuivre complètement débridés. Donc, en fait, c'est vrai que l'élaboration de quel type d'instrument, c'est quelque chose qui est assez en amont. Et puis, des fois, on nous disait, ouais, mais attention, non, c'est pas possible. Là, moi, je vais faire tel instrument, et là, vous m'avez dessiné un alto, c'est un soprano, ouais. Et là, ça marche pas. Donc, on avait un peu des discussions comme ça. Et puis sur le violon, ma fille, elle a fait du violon. Donc on savait que si les violonistes qui regardent le film, si c'est pas un vrai violon, on va avoir des problèmes. Donc.
Puis dans notre équipe d'animation, on a aussi donc des gens qui dessinent très bien, forcément, mais beaucoup de gens qui font de la musique à côté. Donc on a pu aussi caster certaines scènes en fonction de qui dans l'équipe sait jouer du violon, véritablement. Et on l'avait déjà fait sur la série pour la télé. On avait de très bons violonistes dans l'équipe d'animation. Et donc les gens qui ont animé, dessiné les scènes au violon, par exemple, sont des vrais violonistes. Donc la précision s'en ressent, on espère.
Mais du coup, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une patte française d'animation un peu? Quand on vous écoute, on dirait que c'est un savoir-faire que nous, Français, on a et qui n'est peut-être pas ce que les autres pays font finalement, et est-ce que quel regard vous portez aujourd'hui sur le cinéma d'animation français?
Ah bah
moi, surtout qu'il est très, très riche,
large. très large comme question.
Non, mais surtout qu'elle est très très riche l'animation en France, parce que bien sûr ça va des films comme Ernest et Célestine jusqu'au petit Nicolas, mais en même temps ça va jusqu'au Mignon, au film Super Mario Bros. Ouais. Donc après le public, je suis pas certain que tout le monde sache, que tout le monde sait que ces films-là sont des films français, les films qui sortent de chez MacGuff et donc Illumination. Mais c'est vrai qu'on a une terre d'animation qui est quand même assez exceptionnelle. Forcément, il y a les films de Michel Osto, il y a les Astérix qui continuent de se faire en 3D. C'est...
Bah, le monde entier nous envie ça. C'est-à-dire le monde entier, je pense que nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est en France, mais à l'extérieur, tout le monde sait quand il s'agit d'un film d'animation français. Mm-hmm. Parce que l'originalité des styles aussi, on a justement, vous l'évoquez, mais cette diversité de styles, c'est unique. Dans une industrie, nous en France, l'industrie de l'animation produit des films vraiment hyper variés, que ça va de la stop motion, même en court métrage, on a beaucoup de styles différents d'animation.
Oui, parce que là, en l'occurrence, on parlait de films, mais il y a le volet des séries qui est aussi primordial, et on sait qu'elles sont vendues à l'international, que ce soit pour les chaînes de télévision, les plateformes, et j'en passe. Il y a aussi énormément de contenus qui sont créés dans ce sens-là.
Ouais. Ouais, complètement. Je pense qu'en France, on a vraiment entre deux cultures. Je pense que pour beaucoup, on a été influencé par l'animation mainstream, enfin américaine, c'est-à-dire le film Disney de Noël, et en même temps, toutes ces séries japonaises qu'on a commencé à regarder dans les années 80, 90, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on a mixé ces influences. Et puis en France, en Belgique, on a une grosse culture visuelle liée à la BD, bande dessinée. Et le tout mélangé ensemble, c'est vraiment ce qui constitue la French Touch, cette culture du dessin, cette culture visuelle, aussi grâce à des écoles d'animation qui sont excellentes en France, qui permet en fait aux jeunes qui ont ce bagage visuel, plus ces acquis techniques appris à l'école, bah, ça donne vraiment une industrie qui est très très forte quoi, et reconnue dans le monde.
Mais puis même au niveau de ces thématiques, je trouve, c'est ce que disait Gaëlle tout à l'heure sur le fond, par exemple politique, qu'on retrouve dans le film, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de français là-dedans, peut-être quelque chose qui nous touche ou qui nous pousse à réfléchir un peu plus, en plus de la technique finalement.
Oui, bah, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de faire des films qui sont moins formatés. Aux États-Unis, c'est vraiment les énormes productions... en 3D, donc en fait c'est quand même assez formaté sur le type de film. Après il y a quand même toute la variété de l'animation japonaise, mais quand même graphiquement il y a moins de diversité, et donc comme on peut pas financer des films en 3D comme aux États-Unis, on peut pas rassembler les budgets, il y a cette recherche de trouver un langage visuel qui est en corrélation avec l'histoire, des histoires et un graphisme qui ensemble racontent quelque chose de cohérent, d'unique et de nouveau. C'est en fait, il y a cette nécessité en fait de se renouveler, d'apporter quelque chose que les spectateurs vont avoir envie de voir parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Donc on est toujours à la recherche de faire quelque chose de créatif, de nouveau, quoi.
Finalement, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent qu'on doit devenir créatif.
Justement, ça, c'était une question que je voulais vous poser. J'ai l'impression qu'il y a une... Alors, peut-être que je dis n'importe quoi, hein, ce ne serait pas la première fois.
C'est vrai qu'on les compte. On a un petit...
Mais j'ai l'impression qu'il y a comme une fatigue, justement, de la 3D. En tout cas, s'il n'y a pas une fatigue de la 3D, j'ai l'impression que tous ces projets 2D, et Alexis les listait tout à l'heure, le petit Nicolas, Ernest et Célestine qui arrivent, on pourrait parler du retour de la stop motion aussi.
Michel Oslo récemment.
Et Michel Oslo, évidemment. J'ai l'impression qu'il y a... le public est en tout cas prêt à voir des choses qui ne répondent plus aux standards qu'on a connus pendant des années, que ce soit les productions Pixar DreamWorks. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez ou est-ce que j'ai tout faux?
Ah oui, non.
Est-ce qu'il faut ajouter ça à la liste?
c'est très juste. Je pense que les publics sont habitués à un certain rendu d'image quand il s'agit d'aller voir un film d'animation. Et aujourd'hui, ils peuvent être un peu lassés. Et on voit bien que même aujourd'hui, dans les studios américains... les propositions deviennent de plus en plus variées. Ils cherchent, en fait. Ils cherchent. Et ils viennent beaucoup, d'ailleurs, chercher de l'inspiration en France, hein, en recrutant des artistes, des jeunes.
Pensez aux Bad Guys chez DreamWorks.
Oui, voilà, tout à fait.
Pierre Périphel.
Ouais, complètement. Et d'ailleurs, moi, j'ai commencé à Disney à l'époque. Hein. Je faisais du développement visuel là-bas parce qu'ils cherchaient des jeunes talents issus d'écoles françaises pour pour essayer de changer un peu les choses en interne.
Porter du sang neuf à l'animation.
Mais du coup, le choix, c'était bon, est-ce qu'il faut changer les choses là-bas ou plutôt juste développer l'animation en France, ce qui a
là
le plus
où on
de
peut
sens.
Faire, ouais.
Donc du coup, plutôt rester en France. Et du coup, quand même, depuis quelques années, on est de plus en plus nombreux à être restés en France pour développer justement les films français, et essayer de pousser le médium. Et je crois qu'on résiste bien, quoi, parce que effectivement, ça rend la France très très originale dans ses propositions. Et c'est des films extrêmement bien conçus et animés, c'est-à-dire techniquement animés. C'est-à-dire que je pense qu'en termes de technique d'animation, sans être trop technique, on n'a rien à envier sur la qualité d'acting qu'on peut avoir, d'acting, c'est-à-dire le jeu qu'on a sur des longs métrages comme Ernest Célestine face à des longs métrages 3D. Enfin, on a vraiment une excellence en France. Là-dessus. Et je crois qu'en continuant à chercher, à innover, ce qui est peut-être lié aussi au manque de moyens, hein, ben on pourra arriver à sortir des blockbusters français qui n'auront pas à rougir face aux Américains.
Et sur le sujet de donner vie au personnage, je crois que Gaël avait une question justement. Tu ne voulais pas évoquer quelque chose sur Lambert Wilson ?
Ah oui, non, alors oui, non, je veux bien. Non, enfin, oui. Pourquoi
après
pas.
Tu peux aller te reposer.
Non, j'étais en train de faire ma sieste. Oui. Enfin, on en parlait. Disons qu'on en parlait tout à l'heure. Et moi, j'ai été sinon étonné parce que je sais que c'est un grand acteur, mais je trouve que il y a effectivement une interprétation de Lambert Wilson qui est absolument géniale dans ce film, quoi. Comment ça s'est passé concrètement, techniquement, qu'est-ce qui se passe? Il pose sa voix sur ce que vous avez déjà imaginé, il fait des propositions.
On travaille vraiment en création de voix, c'est-à-dire que c'est aussi ce qu'on avait fait sur la série. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur les dialogues, le texte, le scénario, les dialogues. Vraiment, on peaufine bien ça, avec le directeur de plateau aussi. Et ils sont vraiment en création de voix. C'est-à-dire que c'est eux qui créent les personnages, qui jouent, et ils n'ont pas d'image. C'est-à-dire qu'on leur explique la situation, tout ça, mais c'est vraiment de la création. Et pour eux, c'est quelque chose qu'ils aiment faire, parce que ça, c'est complètement différent du doublage où on doit parler en suivant la labiale de ce qu'on a devant nous. Et donc, c'était pendant le Covid, donc c'était un peu particulier. Donc on a enregistré 4 voix principales, hein, Ernest, Célestine, le père et la mère. Et on a animé, l'animation a été faite d'après ces 4 voix. Et en fait, là, eux, ils ont vraiment créé des personnages. Il y a même des choses qui sont apparues sur le plateau, des échanges, des choses qui étaient improvisées, qu'on n'avait pas réfléchi, puis tout d'un coup, ça jaillit comme une espèce de logique, parce qu'ils disent, mais si je suis tel personnage, je dois dire ça, ou je devrais faire comme ça, tout ça. Donc on a travaillé un peu vraiment comme avec des comédiens qui créent la scène pour qu'ils puissent vraiment donner tout leur talent. Et on s'appuie sur ce qui crée du personnage pour l'animation. Et donc, du coup, il y a effectivement certaines choses qui sont sorties après enregistrement. La séquence s'est trouvée modifié et donc on a intégré ce qui s'est passé pendant le...
Et d'ailleurs, Lambert, quand il est arrivé, il était assez anxieux parce que ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas joué le personnage, donc il avait peur d'avoir une voix qui est vieillie et puis de pas arriver à se remettre dans les bottes, à retrouver le rôle, quoi. Et je crois qu'en 5-10 minutes, il s'est échauffé la voix, il s'est raclé, grogné, excité dans tous les sens. Et il l'a retrouvé en 2 secondes. Et il est parti avec une énergie folle sur quelques jours là, d'enregistrement. Et il a envoyé vraiment une partition qu'on a adorée, quoi. Et ce qu'il nous disait, effectivement, par rapport à un tournage avec une équipe et live, ce qui est génial là, c'est personne ne le filme. Donc il se sent complètement désinhibé, il peut se lâcher comme il se lâchera jamais devant une caméra. Et donc nous, on le voyait, on était spectateurs de ça, on se sentait hyper chanceux, parce que je pense que personne sur un tournage n'a vu Lambert s'exciter comme ça, dans le vide en plus.
Ouais, c'est ça. Puis il y avait les interactions, c'est-à-dire que quand il parle avec Pauline Brunner qui fait Célestine, donc ils échangent, ils réalisent l'un par rapport à l'autre. Après on avait Michel Larousseau, Céline Rontet qui ont fait Le Père et la Mère, qui ont été aussi géniaux. Qui arrivent et puis tout d'un coup qui nous sortent un truc bon, Céline, à moitié du texte je crois que c'était improvisé, quoi, c'était vraiment formidable, quoi. Michel Larousse aussi, formidable.
Et ça, c'est vraiment le squelette du film, parce que nous, en animation, quand on va passer un an avec une équipe qui va dessiner chaque scène, ils ont la voix des comédiens dans les oreilles, donc ils doivent ensuite... ils s'inspirent de ça et de toutes ces créations qui, dans la voix, dans le ton, dans l'humour, ces rythmes. Et c'est ce qui guide l'animation des personnages, le mouvement des personnages. Donc c'est hyper important, nous, que les comédiens... Du bon job, quoi, à cette étape.
De toute façon, c'est une des choses qui fait que le personnage il commence à prendre de la profondeur, parce qu'il y a vraiment des sentiments, il y a des intentions, des fois très subtiles. Le père qui, en fait, dit non, qui aime la musique, mais qui l'interdit, donc on a cette espèce de double personnage qui est un tyran, mais qui, en réalité, est blessé dans son orgueil. Donc il y a des subtilités au niveau de la psychologie des personnages que le comédien va intégrer dans son jeu. Et du coup, l'animation, elle se nourrit de ça. Et donc, c'est un des éléments qui fait que le personnage, il devient... C'est pas juste... voilà, ça prend une vraie... une profondeur, quoi. Même si c'est dessiné.
Julien Cheng, Jean-Christophe Roger, merci beaucoup à vous deux.
Merci à vous.
D'être venus en séance tenante pour nous
merci
parler.
Merci beaucoup.
De Ernest et Célestine, Le Voyage en Charabie, ça sort le 14 décembre prochain au cinéma. Merci.
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 Et on continue cet épisode de Séance Tenante en revenant sur les sorties de la semaine, en commençant par Les Femmes du Square, un film de Julien Rambaldi avec Aïe Aïdara, Ahmed Silla et Léa Drucker.
Si vous avez besoin d'argent, je connais quelqu'un qui cherche une nounou et qui propose un logement qui va avec. La chose la plus importante, chante une comptine africaine. Chez les bobos, ça marche à tous les coups.
Olé. Coller la petite, la petite, coller.
À quoi on peut s'attendre, Lisa, en allant découvrir ce film au cinéma?
Alors, à plusieurs choses, parce qu'en fait, de prime abord, ça peut paraître être un petit film, une petite comédie qu'on a déjà vu mille fois sur les clichés de classe, etc. Sauf que je trouve que, ce qui m'a étonnée en tout cas, c'est que c'est très bien écrit, c'est bien dosé au niveau de l'humour, et en plus de ça, et là c'est la grosse force du film, c'est que Les Femmes du Square peut se... En fait, ça appuie sur Aïe Aïdara, qui est l'interprète principale, qui joue Angèle, et qui est un mélange de... comment dire? Apparemment, quand je les ai eus en interview, elle évoquait beaucoup l'inspiration de Julia Roberts a eue via Erin Brockovich, des choses comme ça. Donc, c'est un personnage féminin très puissant, en fait, et elle porte vraiment le film à elle toute seule. Bien évidemment, il y a Léa Drucker et Ahmed Silla à citer, mais en tout cas, c'est la grande force du film.
C'est une actrice qu'on a pu découvrir au cinéma avec...
Dans Le Sens de la Fête.
Le Sens de la Fête, ouais. De Toledano Lacache.
Ouais, exactement. Et justement, le réalisateur a expliqué qu'il l'avait repéré via Le Sens de la Fête et qu'il avait été bluffé par sa prestation. Et c'est vrai que c'est la grande force du film.
On va revenir sur les bonnes raisons d'aller voir Les Femmes du Square, pour commencer. Lisa.
Je dirais que ça a beau être une comédie, ça brise les clichés de classe.
Et moi, j'ajouterais pour Aïe Aïdara, qui est super dans le film, comme tu l'as dit, qu'on avait découvert dans Le Sens de la Fête et qui était fantastique aussi dans ce film-là. On ne peut aussi que vous conseiller d'aller découvrir ce vendredi le film Le Menu en avant-première dans tous les cinémas pâtés, dans le cadre des Vendredis de l'horreur. On en reparlera bien sûr plus en détail la semaine prochaine à l'occasion de sa sortie nationale. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été autour de la table pour parler de ce riche programme, de cette belle rencontre avec les deux réalisateurs d'Ernest et Célestine et j'en passe. Merci Gaël.
Merci.
Merci Robin.
Merci beaucoup.
Et merci Lisa.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Prenez soin de vous et à très vite au cinéma. Tu crois que ça veut dire quoi, c'est en se tenant depuis le début? C'est des mots comme ça qu'on a mis côte à côte.